Vous écoutez, on lit pour vous.
L'humour, Chris, un texte de Louise Richer, paru le 27 février 2026 dans La Presse. Louise Richer est directrice générale de l'École nationale de l'humour. Avec la lourdeur de l'actualité qui est d'une grossièreté assourdissante, j'ai l'irrésistible élan de parler d'humour. Au-delà de la torpeur d'un hiver glacieusement généreux, comment couvrir le bruit ambiant du chaos qui nous assaille au quotidien? Comment peut-on rire quand tout va mal? Sommes-nous en train de banaliser la détresse environnante à l'échelle de la planète? Peut-on être lucide, informé, plombé par les perturbations et les renversantes folies mégalomanes en surenchère et rire? Oui. Après L'amour, Chris, de Louise Latraverse, un autre cri du cœur, l'humour, Chris. Rions, rions autant que nous pleurons, rions autant que nous fulminons. Rions, sourions pour nous resserrer. On peut rire pour s'interpeller, pour partager, pour mieux se connaître, pour mieux vivre ensemble, pour se sentir vivant. Le plaisir solidarise. L'humour n'est pas une fuite, mais un refuge, un abri temporaire contre l'absurdité du monde. L'humour ne nie pas la souffrance, la gravité, le sérieux des problèmes. Au contraire. Il procure la distanciation nécessaire. Il recadre, limite le pouvoir qu'on donne aux autres et permet de se réapproprier un certain ascendant sur nos pensées et nos vies. L'écrivain Romain Gary parlait de l'humour ainsi. Cette façon habile et entièrement satisfaisante de désamorcer le réel au moment même où il va nous tomber dessus. L'humour a été pour moi, tout le long du chemin, un fraternel compagnonnage. Je lui dois mes seuls instants véritables de triomphe sur l'adversité. À l'image des peuples autochtones, considérons plus que jamais le rire dans sa dimension de guérison et de résilience. L'humour, dans les situations les plus tragiques, persiste et signe. Il devient résistance, survivance même. Autrefois, les Innus de Pessamit étaient appelés les Papinachois, mot francisé dérivant de l'Innu ka paapichit, qui signifie « ceux qui aiment rire », raconte Kim Picard, une Innu de Pessamit, créatrice de costumes et gardienne du territoire. Cette appellation reflète bien une part essentielle de notre culture, poursuit-elle. Nous avons cette capacité unique de nous moquer de nous-mêmes, de ne pas nous prendre trop au sérieux. Le rire est un acte de résilience, une façon de guérir, de nous connecter les uns aux autres, peu importe d'où nous venons. En fin de compte, c'est ce qui nous unit. L'humour, ce pont invisible, mais puissant, qui nous rapproche et nous permet de traverser ensemble les épreuves de la vie. La légèreté momentanée que génère l'humour constitue une perfusion tonique et salvatrice. Une borne de recharge, une remise à zéro, un reset. En anglais, légèreté se dit « lightness ». Ces instants d'union du rire et du sourire ensemble sont des injections de lumière dans les fissures de l'ombre. Rire pour survivre, rire pour rester humain aussi. Cultivons une légèreté qui nous extirpe de la gravité existentielle, qui nous redonne de l'espoir. Dans un sondage sur l'humour et la santé mentale effectué par la firme Léger auprès de 1022 personnes à la fin du mois d'octobre dernier, 94% des répondants ont dit trouver l'humour essentiel pour maintenir un bon équilibre de vie. Aussi, 90% d'entre eux considèrent que rire plus souvent leur ferait du bien. 89% pensent qu'on sous-estime les bienfaits de l'humour sur la santé mentale et 84% estiment que l'humour permet de faire face à ce qui se passe dans la société actuellement. Dans le tumulte actuel, la solidarité qu'apporte le rire n'est pas qu'un baume. Elle est aussi un bouclier particulièrement important. L'humour devient même un acte de rébellion, une insoumission de l'esprit, voire un rempart de la liberté là où l'autoritarisme tente de s'imposer. On le voit aux États-Unis, quand le pouvoir s'attaque au bouffon du roi, comme lors des tentatives de Donald Trump de faire taire la satire de Jimmy Kimmel. On l'a aussi vu lors des manifestations contre les agents de l'ICE. Des vidéos devenues virales montrent des manifestants déguisés en grenouilles tenant tête aux agents de l'immigration en démontrant l'absurdité de leurs dérives autoritaires. L'humour devient alors une arme de résistance qui, en ridiculisant l'oppresseur, participe à lui retirer son pouvoir de nous terrifier. Alors, rions du risible, rions du roi, couvrons le tintamarre désespérant avec des folies folichonnes, chantons allègrement « Aujourd'hui, ma vie, c'est de la marde », enrayons le sablier du temps qui passe en nous offrant les moments d'éternité des fous rires. Colorons la morosité avec des rires francs et des sourires discrets. Sourions aux inconnus dans la rue et dans les ascenseurs. Réhabilitons notre tannant. Payons-nous la traite de connexions humaines et de shooters d'endorphines. Relevons la tête de nos foutus appareils et reprenons conscience des humains qui nous entourent. Malgré la tentation légitime, érodons le cynisme, bourrons-nous la face de complicité, cultivons cet art du pas de côté. Comme l'a si bien dit Ionesco, où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'humanité. C'était L'humour, Chris, un texte de Louise Richer, paru le 27 février 2026, dans la presse.
Où en sommes-nous avec la diversité à Montréal? Un texte de Gérard Bouchard, paru le 31 janvier 2026 dans Le Devoir. Il est urgent de passer à l'action si l'on tient à établir le statut de la métropole comme ville francophone. Dans un texte du 25 septembre 2021, j'étais intervenu sur ce sujet, mais il me paraît utile de faire le point quelques années plus tard. Avec l'arrivée de Mme Martinez Ferrada à la mairie de Montréal, il est permis d'espérer que les efforts de la précédente administration pour combattre le racisme et les diverses formes de discrimination vont se poursuivre. On sait que l'avenir culturel du Québec, comme société francophone, dépend beaucoup du dynamisme montréalais. Orchestrer la vie ethnoculturelle. Il est bon de rappeler que l'intégration des immigrants reste un processus à double voie. La société d'accueil TIR, elle, profite du contact avec les nouveaux venus. En retour, on doit reconnaître l'apport économique et culturel de l'immigrant à sa nouvelle patrie. À Montréal, cet apport n'est pas reconnu à sa juste valeur, faute d'une politique concertée favorisant l'intégration. Le politologue David Carpentier en a montré les conséquences dans son livre « La métropole contre la nation, la politique montréalaise d'intégration des personnes immigrantes » 2022. L'auteur soutient que les autorités montréalaises se sont détournées des principes de l'interculturalisme, ouvrant ainsi la voie au multiculturalisme canadien. Sans concurrence, ce modèle, écrit-il, est discrètement à l'œuvre dans la métropole. Un organisme très actif, mais peu écouté. Dans l'ensemble, peu de choses ont changé. En témoigne le Conseil interculturel de Montréal, CIM, un organisme consultatif dont la ville s'est dotée en 2003 pour formuler des avis et propositions visant entre autres à concevoir et mettre en œuvre une politique interculturelle. Selon des informations provenant de diverses sources, cet organisme n'a pas l'écoute de la ville, même s'il est très actif. Ses rapports annuels et ses mémoires sont substantiels et rigoureusement structurés, notamment au sujet du besoin d'orientation plus claire sur le modèle à promouvoir. Ses textes restent cependant la plupart du temps lettres mortes. Un conseiller de première ligne écrivait que rien n'a été fait pour relayer les propositions et les questions du CIM. Toute la documentation que j'ai consultée sur le sujet est accessible sur Internet. Je signale tout particulièrement un document synthèse publié par le CIM en 2019 qui énonce d'une manière très cohérente les principes et les modalités d'une véritable politique interculturelle adaptée à la réalité montréalaise. Le document est assorti de diverses recommandations propres à orienter concrètement l'action des dirigeants. Selon mes sources d'information, cette initiative n'a pas eu d'effet. On ne sait pourquoi. On trouvera aussi sur Internet les rapports annuels d'activité du CIM depuis 2003-2004. Chacun présente de nombreuses formules destinées à éclairer les divers aspects de la diversité montréalaise, le tout convergent vers une démarche générale intégrée. Au fil des ans, on voit donc se déployer dans cet organisme un ensemble de réflexions, d'expériences et de réalisations témoignant d'efforts méritoires de la part d'équipes enthousiastes de bénévoles dont la contribution est bien mal récompensée. Il y a là une somme d'idées prometteuses et de savoirs concrets restés inexploités. On déplore qu'un tel bouillonnement d'idées ne trouve pas preneur auprès des autorités métropolitaines. Le CIM poursuit néanmoins ses efforts et attire des membres compétents et dévoués, des bénévoles avec des parcours remarquables issus de divers secteurs du travail et de la vie institutionnelle québécoise. En dépit de son modeste budget et d'un contexte peu favorable, l'organisme est parvenu à entretenir des liens de coopération avec divers acteurs au Québec, au Canada et à l'étranger. Le CIM favorise l'interculturalisme comme cadre d'inclusion, mais pour des raisons difficiles à comprendre, l'idée reste lettre morte. On en vient à penser qu'au fond, sans le déclarer publiquement, des élus ont une préférence pour le multiculturalisme ou simplement pour le laisser faire, ce qui s'équivaut pratiquement dans le contexte montréalais. La ville devrait s'engager dans un débat public pour affirmer son choix et articuler sa vision. Elle ne le fait pas. Une ressource sous-exploitée. La ville de Montréal a été admise en 2011 comme membre du prestigieux programme des cités interculturelles piloté par le Conseil de l'Europe. C'était dans la foulée d'un symposium international que j'avais organisé avec une grosse équipe. J'avais d'abord plaidé auprès des autorités du Conseil de l'Europe, puis auprès du maire Gérald Tremblay, qui s'était facilement laissé convaincre. Je ne veux pas exagérer mon mérite. Le terrain avait déjà été bien préparé par de proches collaborateurs et collaboratrices du maire et d'autres experts. Le moment était important et on s'en réjouissait de part et d'autre. Ce grand réseau international des cités interculturelles, unique en son genre, a pour mission d'aider les villes participantes à échanger sur leur mode de gestion de la diversité tout en mettant en avant les principes interculturels. Chaque membre y trouve à s'instruire à même les expériences originales des autres membres, en plus de faire valoir les siennes. Une sorte d'émulation s'engage ainsi dans la collaboration. Mais une fois passé le moment de réjouissance, d'une manière inattendue, la ville ne s'est pas engagée à fond dans le projet. Elle s'en est même en grande partie détournée pendant plusieurs années. En 2011, elle avait déclaré sa volonté de s'affirmer comme une ville exemplaire. Néanmoins, lors d'une visite d'évaluation par des envoyés du Réseau des cités interculturelles en 2019, Montréal a eu droit à quelques critiques, mais aussi à des félicitations, et ce, à la grande surprise des personnes bien informées de ce dossier. La Ville avait présenté un rapport synthèse des plus convaincants de ses activités. Encore là, rien de significatif n'a été réalisé depuis. Des membres actuels du CIM m'ont informé récemment qu'ils n'avaient jamais entendu parler du programme des cités interculturelles. S'ajoutent à ces difficultés des rapports plutôt tendus entre Montréal et le gouvernement québécois. C'est une autre source d'empêchement qui ne sera pas abordée ici. Mais on voit qu'il est urgent de passer à l'action si l'on tient vraiment à établir le statut de Montréal comme ville francophone. C'était « Où en sommes-nous avec la diversité à Montréal? » un texte de Gérard Bouchard, paru le 31 janvier 2026 dans Le Devoir.
Le mirage du pétrole, un texte de François Brousseau, publié le 12 janvier 2026 dans Le Devoir. L'intervention américaine au Venezuela et la prétendue mainmise de Washington sur le pouvoir à Caracas, alors même que le chavisme sans Nicolas Maduro reste en place, est fondé sur des illusions. Des mirages et des fantasmes en bonne partie liés à la fascination enivrante pour l'or noir. Le pétrole dans cette affaire est la drogue qui alimente les illusions de grandeur des États-Unis à l'heure de leur déclin géopolitique et économique. Le mirage est triple. D'abord, on croit faussement, en tout cas Trump le naïf croit faussement, à l'existence de fabuleuses réserves de pétrole facilement accessibles au Venezuela. C'est le fameux chiffre de 300 milliards de barils de réserves prouvées, selon l'expression utilisée, qui dépasserait le 50 milliards, celle de l'Arabie saoudite, pour en faire des supposées plus grandes réserves du monde. C'est au mieux une extrapolation hypothétique, au pire un mensonge. Entre 2010 et 2013, alors qu'Hugo Chavez était encore vivant et emmené large au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, les statistiques officielles de l'organisation ont soudain vu les évaluations pour le Venezuela tripler, passant en gros de 100 à 300 milliards de barils sur un claquement de doigts. Cette évaluation ne résultait pas de grandes découvertes géologiques ni de percées technologiques qui auraient permis de nouvelles exploitations. On avait simplement changé l'évaluation officielle de certains gisements connus dans le bassin de l'Orénoque pour les élever au niveau dit « exploitable ». Opération politique et opportuniste. Alors même que, dans les faits, l'industrie nationale pétrolière s'enlisait, que les équipements se dégradaient gravement et que la production annuelle s'effondrait. Production quotidienne du Venezuela en 1997, 3,5 millions de barils. En 2020, 500 000 barils. Pour comparaison, l'Arabie saoudite produit environ 10 millions de barils. Donald Trump a convoqué le 9 janvier les dirigeants de compagnies pétrolières pour les inciter à investir au Venezuela, leur disant en substance, à la fois impérialiste et mafieux, « J'ai défoncé la porte, leur pétrole est à nous, servez-vous. » Mais attention, a ajouté le boss, « Vous traitez directement avec nous, nous ne voulons pas que vous traitiez avec le Venezuela. » Selon les comptes rendus de cette réunion, le sentiment général était plutôt au scepticisme, et ce ne sera pas la ruée. Les spécialistes savent que ce pétrole lourd et visqueux, véritable mélasse, est difficile à traiter et que les infrastructures là-bas sont désuètes, voire ruinées. Ils ont aussi lu l'étude du cabinet Rystad Energy, évaluant les réserves exploitables du pays à 30 milliards de barils, 10 fois moins que le chiffre officiel, et les investissements requis à plus de 100 milliards de dollars. Deuxième mirage. On veut faire croire que conditions politiques, internes au Venezuela, commerciales, marché mondial et géopolitiques sont bonnes, alors qu'elles ne le sont pas. L'agression du 3 janvier était aussi tactiquement réussie qu'elle est stratégiquement indigente. Trump croit qu'une décapitation et un simple coup de pied dans la fourmilière peuvent tout changer. De façon caractéristique, sans avoir la moindre idée de ce qui va suivre, il dit « On va voir ce qui va se passer » et jette des promesses sans rapport avec la réalité, à l'horizon de quelques semaines ou de quelques mois. Le Venezuela est un pays politiquement, psychologiquement et socialement brisé. Son économie, ses infrastructures, la démocratie et l'état de droit sont en ruine. Plus du quart de sa population a fui à l'étranger, sans la guerre.
pensait que l'électrochoc de la capture et de l'exfiltration du président d'un État souverain, qui était aussi, c'est vrai, un chef mafieux haï par la population, puisse, comme par miracle, remettre le Venezuela sur les rails est une illusion. Trump, en bon mafieux lui-même, croit qu'il peut conclure une entente de capot à capot avec celle qui a remplacé Maduro, mais avec le gros bout du bâton pour lui. Mais l'opposition démocratique qui a gagné les élections en 2024 et que la Maison-Blanche rejette aujourd'hui comme un rebut, se sent trahi. La clique au pouvoir est toujours là. La population ne voit rien de bon pour elle dans ces tractations entre bandits par-dessus sa tête. Le potentiel de violence entre l'État et la population ou entre factions au pouvoir. Delcy Rodriguez a-t-elle trahi Maduro est élevé. Une abdication de souveraineté en échange d'un boom économique, ce n'est même pas dans les cartes. Le marché mondial du pétrole n'aurait rien à faire en 2026, 2027 ou 2028 d'un hypothétique sursaut de production qui viendrait du Venezuela. Au-delà des considérations morales sur la brutalité impérialiste de l'épisode, il n'y a pas là-dedans le moindre plan de relance, politique ou économique, pour ce malheureux pays. Enfin, dernière illusion et non la moindre, on parie sur le pétrole, alors que le pétrole ne représente pas l'avenir. Il est vrai que le pic pétrolier, suivi d'un déclin précipité, annoncé depuis 40 ans, tarde toujours à se concrétiser, et que la demande à court et moyen terme demeure élevée, avec un marché bien approvisionné. Miser sur le pétrole, à l'heure du nécessaire changement énergétique, peut paraître absurde, même s'il y a un débat légitime entre la nécessité immédiate, réchauffement climatique, les moyens de la transition et les objectifs à long terme. Mais ce n'est pas la mélasse pétrolière de l'Orénoque, sous tutelle américaine, qui va permettre aux Vénézuéliens de se tirer du fond du baril. C'était « Le mirage du pétrole », un texte de François Brousseau publié le 12 janvier 2026 dans Le Devoir.
Édité, Consommateur ignoré, un texte de Sylvain Charlebois paru le 12 février 2026 dans la presse. Le porc génétiquement modifié ou édité ne pose aucun risque pour la santé, mais retenir l'information mine la confiance et l'hétérogénéité des choix pour les consommateurs. Encore une fois, sans avis public ni explication substantielle, Santé Canada a autorisé une technologie alimentaire qui demeure mal comprise par une grande partie de la population. Début février 2026, l'agence a approuvé la vente de porcs génétiquement modifiés au Canada sans aucune exigence d'étiquetage permettant aux consommateurs de savoir ce qu'ils achètent. Cette décision peu banale s'inscrit dans un schéma bien connu de la réglementation alimentaire canadienne. Les évaluations scientifiques sont menées, les autorisations sont accordées discrètement et la communication au public est reléguée au second plan. Nous avons déjà assisté à ce scénario à l'automne 2025 avec le clonage. Santé Canada ne semble pas avoir tiré de leçons de cette expérience récente. À l'automne 2025, l'agence approuvait la viande issue de la descendance d'animaux clonés, encore une fois sans annonce publique. Lorsque l'information a fini par émerger, la réaction négative et rapide des consommateurs a forcé Santé Canada à suspendre le processus. L'édition génétique consiste à apporter des modifications précises à l'ADN d'un animal, souvent à l'aide de techniques comme le système CRISPR, afin d'introduire des caractéristiques comme la résistance aux maladies ou une productivité accrue, sans insérer de gènes étrangers. D'un point de vue scientifique, le consensus est clair. La technologie est sûre, bien comprise et offre de réels avantages en matière d'efficacité agricole, de résilience face au stress climatique et, potentiellement, de stabilité des prix à long terme. Ni la salubrité ni l'innocuité ne posent problème, mais la confiance des acheteurs se voit ébranlée et l'abordabilité remise en question. Depuis le 1er janvier 2026, Santé Canada impose des étiquettes frontales bien visibles pour signaler une teneur élevée en gras, en sucre ou en sodium. Si le public a droit à ce niveau d'information, il devient difficile de soutenir que l'identification de la viande génétiquement éditée au point d'achat, un produit à ingrédients uniques, verse dans l'excès ou présente un danger. L'information en soi ne nuit pas au consommateur, mais son absence pose problème, notamment en ce qui concerne les prix. Ces technologies permettent à l'industrie d'augmenter ses performances et d'atteindre une plus grande productivité, tout en réduisant ses coûts. Mais qu'en est-il du consommateur? Quand viendra le jour où il constatera une baisse des prix attribuable à de meilleures technologies? Si deux pièces de viande portent clairement une étiquette, l'une avec la mention « génétiquement éditée » et l'autre non, au même prix, le produit non édité récoltera la faveur d'un plus grand nombre d'acheteurs. D'ailleurs, pour cette raison, l'industrie ne souhaite pas reconnaître l'hétérogénéité des préférences au détail. Il s'agit d'une question de marge, le comptoir des viandes demeurant extrêmement lucratif, en particulier pour les épiciers. Il en résulte une uniformité réglementaire qui étouffe le choix, tout en faisant peu pour s'attaquer aux pressions structurelles qui font grimper les prix de la viande. Les Canadiens paient déjà leur viande plus cher. L'opacité n'améliorera ni l'abordabilité ni la confiance. Dans ce contexte, les producteurs biologiques et de niche qui choisissent de ne pas recourir aux technologies d'édition génétique perdent la capacité de différencier clairement leurs produits. Pour cette raison, Dubreton, plus grand producteur de porc biologique, affiche volontairement sur ses emballages que ses produits ne sont ni clonés ni génétiquement édités. L'édition génétique n'est pas nouvelle en agriculture. On l'utilise depuis des années dans la culture du riz, du canola et des tomates, entre autres. Mais pour les animaux, c'est différent. Le risque scientifique des aliments ne s'évalue pas uniquement à l'aune. Il se façonne aussi par la perception, l'éthique et les valeurs. Les régulateurs et l'industrie doivent reconnaître cette réalité plutôt que de la balayer du revers de la main. La conclusion, pourtant simple, nous dicte que les produits alimentaires issus de l'édition génétique et du clonage devraient porter clairement une étiquette, non pas parce qu'ils présentent un danger, mais parce que la transparence joue un rôle essentiel dans la confiance, dans l'intégrité des marchés et dans l'acceptation à long terme. C'était « Porc édité, consommateur ignoré », un texte de Sylvain Charlebois, paru le 12 février 2026 dans la presse.